sais pas si vous êtes comme moi dernièrement, si vous l'avez remarqué, devant les différents magasins, devant les différents restaurants, devant les différentes compagnies, il y a comme tout le monde met sur leur devanture « rejoins l'équipe ». Poste à pourvoir. Dernièrement, on est allé à Costco avec Julie. Puis vous savez, quand on rentre à Costco, on tombe directement sur les magnifiques télévisions du magasin. Puis d'habitude, ce qu'ils nous mettent à Costco, c'est des films en 4K, 8K, 12K. Enfin, je sais plus le nombre de K auxquels on est arrivé. Mais ils nous mettent des beaux films pour nous montrer un peu les capacités des belles télévisions. Mais là, quand on est arrivé, on est rentré au Costco et j'étais un peu surpris. Parce qu'au lieu d'avoir un magnifique film, il y avait comme un film amateur, pixelisé, sur lequel on voyait différents Costco avec des vendeurs qui nous faisaient un petit déhanché un peu gênant, sur une toune un peu gênante avec « Hey, rejoins l'équipe !» Si vous avez tourné cette vidéo, si vous faites partie de Costco, je suis sûr que vous étiez le plus beau de la gang, mais le reste était gênant. Et en fait, d'après les articles que je lis sur le sujet, d'après tout ce que je peux lire, d'après tout ce que je peux entendre, l'une des raisons pour laquelle on voit tout ce genre de publicité pour rejoindre l'équipe, parce qu'il y a une véritable pénurie de main-d'œuvre en ce moment, c'est à cause de la pandémie. Encore elle, la pandémie. La pandémie nous a fait comprendre que dans la vie, il y a plus que le travail, boulot, métro, dodo, boulot. Les gens ont réalisé que dans leur vie, il y a plus que le travail. Il y a autre chose qui doit compter que le travail. Le travail ne doit plus être au centre de leur vie. Et en ce moment, on voit un phénomène que les spécialistes, que les économistes, les sociologues sont en train d'appeler la grande démission. Et elle vient de plus en plus, même au Québec en ce moment, où il y a plus de 50% des gens qui réfléchissent à changer d'emploi pendant dans les prochaines semaines. Et en fait, la grande démission, c'est partir du principe que mon travail ne me plaît plus autant. Ou alors, c'est pas qu'il me plaît plus, c'est que je suis débordé, puis j'en ai marre d'être débordé, j'ai envie de passer plus de temps avec ma famille, j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît, donc je vais changer de métier. Moi, honnêtement, je trouve ce phénomène super intéressant. Dans la façon dont je vois ce phénomène, j'ai l'impression que le travail est en train de devenir de moins en moins un dieu. Le travail a l'air de devenir de moins en moins une source de notre identité. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Mais le côté négatif de cette grande démission, c'est que le travail est en train de se transformer en un produit de consommation. Où je veux que le travail vienne subvenir à mes besoins, mais pas trop d'efforts. Je veux partir en vacances, donc je veux avoir plein de semaines de vacances et je veux avoir un salaire qui me permet de partir en vacances, mais je veux pas être débordé, j'en ai marre d'être stressé, donc je vais prendre mon temps, je vais démissionner, puis je vais prendre mon temps pour trouver quelque chose qui me plaît. Et cette image de la consommation, ce qui est dangereux, c'est qu'elle se retrouve de plus en plus dans l'Église. J'entends des pasteurs, je lis des articles, je lis des commentaires, je lis des revues qui sont toutes unanimes que depuis la pandémie, il y a une véritable pénurie de main-d'œuvre au niveau des services, au niveau des implications dans l'Église. Pourquoi ? Parce que la pandémie, avec les réseaux sociaux, avec l'Église en ligne, a fait de nous des consommateurs spirituels. Et durant tout l'été, si vous avez été là cet été, on a vu l'évangile de Jean, on a étudié ensemble l'évangile de Jean, et un matin, pasteur Daniel Descaries est venu prêcher sur Jean 4 et la femme samaritaine, et le titre de son message c'était du rejet à la réjouissance. Et si vous voulez, le message est disponible en ligne, et je ne vais pas refaire son message, je ne vais pas reprendre le texte, mais juste pour rappel, dans le texte qu'il a choisi, dans Jean 4, on voit les disciples et Jésus marcher sur un chemin et à un moment donné, Jésus est fatigué et Jésus a faim. Donc il se pose auprès d'un puits et il envoie les disciples aller chercher de la bonne bouffe. Et alors que les disciples sont partis sur la route, Jésus fait une rencontre avec une femme qu'on appelle la femme samaritaine, une femme qui vient de Samarie. Puis au niveau du puits, il y a une rencontre qui se passe entre ces deux personnes, entre Jésus et cette femme, et la femme vit littéralement une guérison. Une transformation au fur et à mesure où elle parle avec Jésus. Et elle est tellement bouleversée et transformée qu'elle court vers le village pour annoncer ce que Jésus a fait dans sa vie. Et au même moment, les disciples revinrent voir Jésus avec leur pique-nique. Et c'est ici où on lit Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, donc pendant le moment où est-ce que la femme samaritaine était annoncée la bonne nouvelle dans le village, les disciples pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger » une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Mais Jésus leur dit, « Non, non, guys, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Ici, les disciples ont apporté de la bonne bouffe à Jésus. Puis il leur dit, « Hey, Jésus, mange ! Mange, profite de ce qu'on t'a ramené. » Je suis sûr que les disciples ont ramené des sushis à Jésus. Les gars, c'était des pêcheurs, ok? Des pêcheurs professionnels. Je suis sûr qu'ils sont allés chercher des sushis faits sur mesure pour Jésus. Jésus, mange les sushis, ils sont frais, n'aie pas peur. Puis en plus de ça, je suis persuadé aussi que les disciples n'ont pas osé manger. Ils ont dû attendre leur maître. Donc les disciples devaient avoir faim aussi. C'est comme, Jésus, mange pour qu'on puisse manger nous aussi. On a faim là, les sushis là, hein, les makis, les sashimi. Ça donne envie, on veut taper dedans. Mais Jésus leur fait comprendre que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on peut manger. Ce n'est pas la consommation qu'on peut obtenir pour nous. Ce qui compte, c'est la contribution qu'on doit faire dans la vie des autres. Et cette contribution-là, elle est bien meilleure que n'importe quel sushi, que n'importe quel restaurant gastronomique ou que n'importe quel autre message d'un dimanche matin. Jésus leur dit, levez les yeux et regardez. Arrête de regarder à ton estomac, arrête de regarder à ton nombril, arrête de regarder au trou qui se creuse dans ton estomac, là, et lève la tête. T'es pas le centre du monde, là. Arrête et lève la tête. Arrête d'être un consommateur et sois un contributeur. On n'est pas appelé à consommer notre dimanche matin, on est appelé à contribuer à notre dimanche matin. Et laissez-moi vous dire que le dimanche matin, c'est pas « on vient à l'église ». On vient dans ce bâtiment parce que nous sommes l'église. Nous sommes l'église. C'est la raison pour laquelle on peut pas se passer de toi. Parce que tu es l'église. Parce que tu fais partie de ce que la Bible appelle le corps de Christ. La Bible nous dit qu'une fois qu'on a été sauvé, une fois qu'on a demandé pardon pour nos péchés, que Jésus nous a pardonné, que l'Esprit de Dieu vit en nous, on a été rattaché au corps de Christ, à l'Église entière. C'est ce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 12, et on va vraiment s'attarder sur ce texte-là. 1 Corinthiens 12, verset 13. « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, hommes ou femmes, grands ou petits, québécois ou français, vegan ou carnivore, extraverti ou introverti, supporter des Canadiens de Montréal ou supporter des autres. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous sommes un corps. Nous sommes une équipe. L'image du corps est tellement révélatrice. L'Église a littéralement été créée pour que nous travaillions tous ensemble en tant qu'équipe. Parce que chacun a des dons, chacun a des forces, chacun a des capacités que Dieu lui a données pour qu'on puisse tous en profiter ensemble, pour bâtir le royaume de Dieu ensemble et avancer ensemble pour accomplir sa mission. L'Église n'est pas un succès individuel. L'Église n'est pas une mission individuelle. L'Église est un travail d'équipe. Dernièrement, j'ai regardé la série sur Disney+, sur la vie et la carrière de Tom Brady. Tom Brady, c'est le joueur le plus titré de l'histoire de la NFL avec 7 Super Bowls. 7 Super Bowls. Quand je m'arrête, tout le monde, là, nous tous, nous sommes à 0 Super Bowl. Lui, il en est à 7. Donc ça forge le respect. Mais dans tout le reportage, dans tous les épisodes, Tom Brady parle rarement de lui-même, de ce qu'il a accompli tout seul. Il parle toujours de l'équipe. Le plus important, c'est pas le joueur, peu importe si on s'appelle Tom Brady ou non et qu'on soit le meilleur joueur au monde. Le plus important, c'est le travail d'équipe. C'est l'équipe qui remporte la victoire. C'est le travail d'équipe qui te permet d'avancer. C'est le travail d'équipe qui t'aide à faire face aux difficultés. C'est la cohésion d'équipe qui t'aide à te relever quand tu as vécu une défaite. C'est en équipe que tu passes par des saisons de Super Bowl, mais c'est en équipe aussi où tu passes par des saisons de défaite et de désert. Et tu as un rôle à jouer dans cette équipe. Tu as un rôle à jouer dans le corps qu'est l'Église, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de toi. Dis à ton voisin ce matin, je ne peux pas me passer de toi. Et dis à ton autre voisin que tu n'as pas choisi à la base, tu ne peux pas te passer de moi. Parce que l'Église, c'est pas juste, on ne peut pas se passer de toi, mais c'est aussi toi, tu ne peux pas te passer des autres. Et on va avoir trois raisons à cela ce matin. La première raison, on ne peut pas se passer de toi car tu es un membre du corps. On reprend 1 Corinthiens 12, verset 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Verset 17, si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Honnêtement, je trouve ça tellement brillant de la part de Dieu d'avoir donné l'image du corps pour représenter l'Église. Et j'aime d'autant plus le verset 18 qu'on a lu tout à l'heure et qui était en jaune, que Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Dieu t'a placé dans ce corps. Il t'a placé spécifiquement ici. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard à ça. Dieu sait exactement quels sont tes dons, tes forces et tes talents qui vont faire que cette Église va pouvoir en profiter et pouvoir encore plus avancer. On ne peut pas se passer toi car tu as un rôle à jouer dans l'Église que personne d'autre ne peut accomplir si ce n'est toi. Et si un membre du corps ne remplit pas sa fonction, c'est tout le reste du corps qui va en être impacté. Moi, il y a plusieurs années, quand j'étais encore plus jeune que ça, j'avais énormément de torticolis. Okay, sur le côté gauche, j'avais tout le temps un torticolis, ça n'avait aucun sens. Puis à un moment donné, je vais voir mon chiro, puis il commence à checker un petit peu mon cou, mon dos, puis il s'arrête à mes jambes, il dit « Ah, j'ai trouvé le problème !» Je dis « Non, non, mais le problème est là, il n'est pas là, il est là. » Puis il m'explique, il me dit « Non, non, mais en fait, ta jambe gauche ne fait pas assez le travail. » Et ta jambe droite compense, ce qui fait que ton bassin se décale totalement, ce qui fait que ça remonte jusque ton cou à gauche. Juste pour un problème de jambe, l'entièreté de mon corps en a été impactée jusque dans mon cou. Puis si vous vous dites, aïe, aïe, le pasteur, il est tout crush, c'est pas faux. Un membre du corps ne peut pas prendre la place d'un autre membre parce qu'on a tous un rôle différent à jouer. Je sais pas si vous connaissez l'expression « touche avec tes yeux ». Autrement dit, on peut pas toucher avec les mains, donc on regarde juste. Et on sait que cette expression-là, ça signifie « regarde, tu peux pas toucher, c'est impossible de toucher avec son œil ». Si vous me voyez scroller mon iPad ce matin avec mes yeux, ça va être quand même un peu bizarre, non? Si je viens vous serrer la main avec mon œil ce matin, il y a un problème. Si vous aviez des yeux à la place des oreilles, je parlerais dans le vide aussi ce matin. Même si on avait un œil à la place de la tête, enfin, le film d'horreur. Tu n'es pas comme les autres. Tu as des dons et des talents qui font que tu es différent, qui font que tu es précieux et précieuse pour le corps de Christ. Et un autre membre du corps ne peut pas prendre ta place. Je ne pourrais pas prendre la place de Jérémy à la louange et remercier le Seigneur que j'ai cette sagesse-là, parce que ça ne se passerait pas si bien que ça. Hein. Il a des dons et des talents que je n'ai pas. Je ne pourrais pas prendre la place de Ginette, par exemple, qui a NV Junior ce matin. J'ai tenté une fois, ça a été la pire expérience de toute ma vie. Après une heure, j'ai quitté les enfants, j'étais comme « Bon, Seigneur, mes dons, mes talents, finalement, je n'en ai pas autant que ça. Hein. » J'ai douté de mon appel, j'ai douté de ma vie, j'ai douté de tout à la fin. Parce que ce n'est pas mon appel. Je ne peux pas prendre la place de Marc qui est à la sono parce qu'il a des dons et des talents que je n'ai pas. Je ne peux pas prendre la place de n'importe quelle autre personne ce matin. Et c'est correct, chacun doit être à la place à laquelle Dieu l'a prévu et Dieu l'a placé. Mais malgré tout, c'est un travail d'équipe. Tous les dimanches matins, moi je suis heureux de venir à l'église et de me dire ce matin, je vais travailler avec des bénévoles qui sont sur la coche tout le temps et qui peuvent faire des choses que je suis incapable de faire, qui savent faire des choses que je suis incapable de faire. Je suis heureux à chaque semaine de me réunir avec tous les staffs pastoraux de Nouvelle Vie Châteauguay parce qu'ils ont des forces et des talents et une vision qui me manque parfois et qui m'aide à avancer. J'ai besoin d'eux comme ils ont besoin de moi. Dieu t'a placé dans ce corps parce que ce corps a besoin de toi. Et ne pas vouloir prendre une place active dans ce corps, c'est comme si on disait « Non Seigneur, tu m'as placé là pour une raison particulière, mais non, je ne fais pas mon boulot, je n'ai pas envie. » Et un membre du corps qui demeure inactif, ça va être dangereux aussi pour lui. Quand on regarde les astronautes, quand ils partent dans l'espace, ils perdent jusqu'à 20% de leur masse musculaire juste après 5 à 11 jours de voyage dans l'espace. Tout simplement parce que leurs muscles qui ont pour fonction de les porter sur le sol avec la gravité, ben dans l'espace, il n'y a pas de gravité, donc ils flottent. Les muscles ne sont plus utilisés. Et ça engendre une atrophie musculaire qui fait que quand ils atterrissent de nouveau sur Terre, ils ne sont pas capables de marcher, on est obligé de les porter puis de les mettre sur des chaises roulantes pour les faire avancer. Mais ce phénomène-là, il n'y a rien d'irréversible, il suffit juste de refaire des exercices, de se remettre en jambes, puis pour remuscler tout ça, puis ils retrouvent leur force par la suite. Mais les muscles sont atrophiés car ils ne sont pas utilisés. Il y en a dans cette salle ce matin, et je regarde personne, je juge personne, mais c'est avec beaucoup d'amour que je dis ça, mais vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes atrophié spirituellement. À la moindre difficulté de ta vie, tu es comme ces astronautes qui sortent, qui reviennent sur Terre, tu t'effondres. À la moindre difficulté, ta foi s'effondre. À la moindre épreuve, à la moindre tentation, à la moindre difficulté, tu retombes facilement dans ta dépendance, dans ton anxiété, dans ta colère, dans ce qui te maintient toujours captif. Et peut-être que l'une des raisons pour laquelle tu es atrophié spirituellement, c'est parce que tu es inactif dans le corps de Christ. Comme un membre atrophié, le moindre effort va te paraître compliqué. Mais je crois fermement ce matin que c'est en étant un membre actif dans le corps que tu vas réussir à retrouver une énergie, que tu vas retrouver un renouveau spirituel parce que tu vas goûter à une nourriture, à une force que tu n'avais jamais goûtée auparavant. À une force et à une nourriture qui va te redonner de l'énergie, exactement comme Jésus dans notre histoire qu'on a lu au début. Jésus, au début, il avait faim et il était fatigué. Et ce qui lui a redonné l'énergie, c'est pas parce qu'il s'est reposé au bord du puits en bronzant au soleil. C'est pas parce qu'il a mangé les sushis des disciples. Mais il a été rassasié à partir du moment où il a contribué dans la vie de la femme samaritaine. Je connais des personnes, et c'est vrai, je dis pas ça, je dis pas les noms, mais je connais plein de personnes, et c'est pas juste pour appuyer mon point, c'est des témoignages où des gens qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu des difficultés, qui étaient épuisés émotionnellement, et puis on a pris soin d'eux, mais à un moment donné, ils se sont mis à vouloir resservir avec sagesse, parce que dans ces moments-là, il faut vraiment faire attention, on prend soin des gens, mais ils ont voulu resservir, puis petit à petit, on les a vus être transformés au travers de leur service. On les a vus reprendre de l'énergie, reprendre de la force parce qu'ils ont goûté à une nourriture spirituelle. Ils ont découvert la nourriture pour leur vie, pour leur âme, que Jésus nous a parlé en Jean 4, verset 34. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ce n'est pas une nourriture temporaire qui s'envole rapidement après une bonne digestion. Mais c'est une nourriture qui est éternelle. C'est Dave Ferguson qui a écrit un livre, il s'appelle Hero Maker, et il dit ceci à ce sujet-là, il dit que le secret est simple, vous devez penser au royaume de Dieu plus qu'à vous-même, ou même plus qu'à votre église. Et c'est là où se trouve la nourriture. C'est là où se trouve la nourriture parce que c'est à travers du travail dans le corps que vous faites à chaque semaine. Parce que c'est bien plus que l'église que vous servez, en fait, le dimanche matin. c'est directement le royaume de Dieu, c'est directement Christ, parce que vous servez le corps de Christ. Et vous avez un accès à cette nourriture spirituelle. Et si tu as faim ce matin, si tu es comme Jésus, tu avais faim et tu étais fatigué, contribue. Ne consomme plus. Vous êtes toujours avec moi ? Amen. Deuxième point, on ne peut pas se passer de toi pour grandir. Dans un corps, dans votre corps, tout est une question de croissance. Les membres de votre corps servent pour la croissance des autres membres du corps. On grandit tous ensemble. Et c'est exactement le même cas pour l'Église. Paul a écrit une lettre à l'Église d'Éphèse et il explique que les dons et les talents que chacun possède doivent contribuer à la croissance de l'Église, mais aussi à la croissance qui est personnelle. Et il dit en Éphésiens 4, verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Un membre de l'Église qui va commencer à servir va vivre une croissance personnelle. Suivez-moi bien avec cette pensée ici. On dit souvent qu'une personne est immature quand elle ne pense qu'à elle-même. Quand on regarde les enfants, quand on regarde les bébés, ils sont cute. Mais quand on creuse un petit peu, ils sont quand même égoïstes, non ? C'est normal, ils ne peuvent rien faire d'autre. Donc c'est à nous de les nourrir, c'est à nous de prendre soin d'eux. Mais ils pensent qu'à eux en fait. C'est ma nourriture, donne-moi à manger, je me fais servir, c'est moi, moi, moi. Et c'est correct. Mais l'enfant doit venir de plus en plus mature et arrêter de penser à lui-même et penser aux autres. C'est à ce moment-là où est-ce qu'il gagne en maturité, il gagne en croissance. C'est quand il commence à regarder aux besoins des autres, c'est quand il commence à non plus être servi, mais à servir. Et c'est la même chose spirituellement. Ta croissance, ta maturité spirituelle va dépendre de ta faculté à servir le corps de Christ. Plus tu vas servir, plus tu vas gagner en maturité et plus tu vas, entre guillemets, passer à un autre niveau. Autrement dit, tu vas dire adieu au lait de bébé et tu vas dire bonjour au tomahawk au barbecue. Parce que tu vas grandir. Mais en plus de la croissance que tu vas vivre, tu vas aussi contribuer à la croissance de l'Église parce que tu vas remplir le rôle pour lequel Dieu t'a placé dans cette Église. J'ai souvent parlé de ce livre-là, Autopsy of a Deceased Church, mais Tom Rainer explique que l'une, dans certains cas, que dans certaines églises, les raisons pour lesquelles des églises meurent, c'est parce que les membres sont centrés uniquement sur eux et pas assez sur les autres. Et au lieu de connaître une croissance, ils connaissent une décroissance. Tout simplement parce que la majorité ne s'implique plus, ou alors parce que ce sont toujours les mêmes qui s'impliquent. Sauf que comme mon problème de dos que je vous ai raconté tout à l'heure, un fonctionnement où les parties du corps travaillent pour les autres, à un moment donné, ça va occasionner une brisure. Ça va occasionner un stop. Ça va occasionner un arrêt direct à la bonne croissance et au bon développement du corps. Plus le corps grandit, et plus les membres du corps doivent être impliqués pour poursuivre une saine croissance. Et je vais faire une parenthèse pastorale ici. Je pense qu'on l'a tous remarqué, même ce matin, j'ai vu encore des chaises qui rentraient. On commence à avoir quelques soucis de place hein, en ce moment. Que ce soit au niveau du stationnement, que ce soit au niveau de NV Junior en bas, où il y a deux semaines, ils étaient 60 enfants. On commence à être plein là. Que ce soit même dans ce lieu où les places se font de plus en plus rares, on est en train de vivre une croissance et c'est juste merveilleux. Merci Seigneur pour la croissance, amen. Yes. C'est d'autant plus merveilleux parce qu'on vit ce que les actes des apôtres vivaient, c'est le Dieu littéralement qui ajoute des membres à l'Église et nous on est émerveillés de voir ça. Mais l'étape après la croissance, c'est la multiplication. Parce que pour pouvoir accueillir encore plus de personnes dans les meilleures conditions, pour permettre à tout le monde de venir à se parquer facilement sans avoir peur de faire demi-tour parce qu'il n'y a plus de place, ou pour refuser des enfants à NV Junior parce qu'il n'y a plus de place, on est en train de réfléchir avec sagesse, avec prière, avec les meilleures dispositions, en demandant des conseils, si on ne devrait pas à un moment donné passer à une multiplication de notre service du dimanche matin. On essaie d'être sage sur ça. Parce que si on écoute ce que dit Jésus, ce qu'a dit Jésus à ses disciples, il a dit « levez la tête et regardez ». Levez la tête et regardez. On comprend qu'en regardant, le besoin commence à se faire sentir. Il y a un besoin qui commence à se faire sentir. La moisson est plus grande qu'on ne peut le croire. La moisson est plus grande qu'on ne peut l'imaginer. Là, on est en train de récolter les fruits extraordinaires qui ont été semés auparavant. Mais il y a encore tellement et tellement et tellement d'autres champs à aller moissonner ce matin à Châteauguay. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de toi pour accomplir l'œuvre de Dieu à Châteauguay. Je ne sais pas si vous connaissez aussi la règle du 80-20. Alors la règle du 80-20, c'est en économie ou même en sociologie, on le voit souvent. En fait, imaginons une entreprise qui vend des produits. 20% des produits qu'elle vend vont contribuer à 80% de son chiffre d'affaires. Même ça se vérifie dans les églises, 20% des gens s'impliquent dans l'église. 20% des gens donnent à l'église pour les 80% d'autres. Mais moi, ma prière à Châteauguay, c'est qu'on n'ait non plus une église où est-ce qu'il y a 20% de bénévoles qui s'impliquent à chaque dimanche, mais qu'on ait une église à plus de 80% qui s'impliquent à chaque dimanche et qui prennent chacun leur part. Et avec Julie, on a calculé, on s'amuse à calculer des fois le soir avant de s'endormir, on s'amuse à faire des petits calculs mentaux. On a calculé que pour que tout tourne correctement à l'église, pour que tout fonctionne correctement, pour qu'il y ait des roulements comme on aimerait le faire pour les bénévoles, ça prend environ 70 bénévoles par mois. 70 personnes différentes par mois. Aujourd'hui, on en a 40. On s'en rapproche. Mais si on est amené à multiplier notre réunion du dimanche matin, nos besoins aussi de bénévoles vont se multiplier. Et je vous laisse faire le calcul 70 x 2, mais ça monte rapidement. La croissance d'un corps ne peut pas se faire seule. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de toi ce matin. On ne peut pas se passer de toi pour continuer à vivre une croissance saine. Troisièmement, on ne peut pas se passer de toi pour prendre soin les uns des autres. On reprend notre texte dans 1 Corinthiens 12, au verset 24. « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun. » Pour sa part. Voilà comment je peux l'illustrer. Il y a quelques années, plusieurs années de ça, quand je vivais encore en France, dans le sud de la France, je me rendais à l'université en voiture. Puis le matin, c'est toujours compliqué de trouver une bonne place de stationnement. Mais là, j'en avais trouvé une belle. Donc je fais un beau petit créneau, comme un professionnel. Super, je sors de ma voiture avec un grand sourire. Et allez savoir comment, je claque la porte sur mon pouce. Et mon premier réflexe, tôt le matin, dans la rue, ça a été de faire un beau petit cri avec une belle note aiguë que je ne vous ferai pas. Je suis rempli de grâce. Mon premier réflexe, ça a été d'hurler. Mon deuxième réflexe, ça a été d'attraper mon pouce avec mon autre main. Mon troisième réflexe, ça a été de mettre mon pouce dans la bouche. Alors, allez savoir pourquoi on fait ça quand on se met mal à la main. Comme si dans notre salive, il y avait quelque chose qui faisait que, ouh, anesthésiant, miracle, c'est comme... Ça marche pas. J'ai testé, ça ne marche pas, mais je l'ai fait quand même. Mets le pouce dans la bouche. Et j'ai commencé à faire un petit pas de danse. Pas aussi weird que Costco, là, mais un autre pas de danse de douleur. Un membre a souffert et tout le reste du corps a souffert avec. C'est Adrian Rogers, un célèbre prédicateur, qui a dit ceci. « Quand nous venons à l'église et que nous partageons nos peines, elles sont divisées. Quand nous partageons nos joies, elles sont multipliées. C'est pourquoi nous avons une église. Et quand on lit ce verset, quand on lit le verset qu'on pleurait avec ceux qui pleurent, on pense tout de suite aux pires choses, et c'est correct, mais on pense au deuil, on pense à la maladie, perte d'emploi, gros problème, on pense directement à ça. Et c'est vraiment correct, moi je pense que l'église, la communauté de l'église, ça va être le lieu où on doit pouvoir partager ce genre de situation, où on doit pouvoir pleurer les uns avec les autres. Mais j'aimerais vous proposer aussi un autre aspect de ce verset. Et c'est en priant avec Julie et en étudiant ce verset que ça a commencé à germer dans mon cœur. Dernièrement, on priait avec Julie. On priait pour l'Église. On priait pour vous. On priait pour les bénévoles. Et on priait pour une moisson de main-d'œuvre à Châteauguay. Et à un moment donné, Julie commence à prier. Elle commence à dire, « Seigneur, donne-nous un maximum de bénévoles, s'il te plaît. » pour que tous puissent avoir un temps de repos le dimanche matin, afin que chacun, l'un après l'autre, puisse dire « Aujourd'hui, c'est moi qui prends ta charge. Va profiter de ton dimanche, c'est à mon tour de servir, va te reposer. » Et sa prière m'a vraiment percuté, alors que j'étudiais en plus ce verset-là. Ça m'a percuté parce que j'ai réalisé une chose assez simple, on vit tous des grosses semaines. On a tous des semaines chargé, où on a du travail par-dessus la tête. Et en plus du travail, il faut gérer les enfants. Et en plus des enfants, il faut payer les factures. Et en plus des factures, il faut aller faire les courses. Et puis en plus de faire les courses, il faut payer l'hypothèque. Et puis en plus de l'hypothèque, il y a le stress, la pression. Et on est conscient de cette réalité-là, que les semaines sont vraiment, 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 dites avec moi vraiment, vraiment chargées pour tout le monde. Qu'elles sont angoissantes, qu'elles sont fatigantes, qu'elles sont stressantes pour tout le monde. Et peut-être que plusieurs ce matin, quand vous m'entendez parler de l'implication ce matin, vous êtes comme, mais non merci pasteur, moi je donne tout la semaine. Je donne tout et j'essaie de résister ce matin à ne pas m'endormir pendant ton message. Mais le principe de porter ceux qui pleurent, de prendre soin les uns des autres, c'est dire ensemble, on va diviser nos épreuves. On va diviser nos peines. Et on va servir les uns après les autres. Et notre vision, c'est ça, à Julie et à moi, et à tout le staff qu'on porte, c'est que plus il y a de monde qui rejoint l'équipe, plus on peut faire des roulements. Et plus on va pouvoir permettre à des gens de prendre off pour des dimanches. Des dimanches où on va pouvoir profiter, mais d'autres dimanches, on va dire, hey, non, ce dimanche, c'est à moi là, de prendre ta charge. Va profiter de ton dimanche, toi aussi tu as une longue semaine, c'est à mon tour maintenant. On se relaye, on est une équipe. C'est ça prendre soin les uns des autres aussi. C'est ça l'amour en action. C'est je ne regarde plus à mes semaines difficiles, mais je regarde aussi aux semaines difficiles des autres. Et ensemble, on va tout faire pour qu'on puisse tous passer des dimanches de repos. C'est je cesse de regarder à moi et je regarde aux autres, par amour. C'est exactement ce que Jésus nous a dit en Jean 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour pour les autres, je prends ma part par amour pour toi. » C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de toi. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de toi. Et peut-être que ce matin, je t'en parle et puis tu ne vois pas trop les besoins autour de toi, mais crois-moi, il y en a. Il y en a. Et on a des besoins pour chaque poste bien précis. Et puis, ils sont tous affichés en plus sur les fiches que vous aviez eues sur vos chaises ce matin. Et la chose à faire, c'est juste simple. Cocher une case. Là où tu te sens appelé. Là où tu sens qu'il y aura un besoin. Là où tu sens que tu pourrais aider. Là où tu sens que tu as des capacités. Ou même si tu as des doutes, des questions, n'hésite pas. Va donner non seulement ton formulaire au kiosque info après la réunion, mais il y a Julie et toute son équipe qui est là aussi pour vous expliquer. Si tu te poses des questions... Va en parler, on va te dire voilà à quoi ça correspond, voilà ce que c'est. Si t'as des enfants et que tu te poses des questions sur NV Junior parce que t'aimerais peut-être servir à NV Junior, va voir les moniteurs en bas, ils vont t'expliquer à quoi ça correspond. Si t'as des questions pour savoir comment ça se passe pour la louange, pour jouer un instrument, Jérémy va se tenir ici devant le stage après la réunion pour répondre à des questions de plusieurs, mais n'hésite pas. Aucun service n'est plus petit qu'un autre. Tous sont essentiels à la vie du corps de l'Église. Et on ne peut pas se passer de toi pour avancer ensemble. J'ai invité les musiciens à venir me rejoindre. Alors que j'étudiais ce sujet-là, je lisais beaucoup de livres, beaucoup de choses. Et puis, je tombais sur un moment d'un livre où est-ce qu'un auteur expliquait un témoignage d'un missionnaire qui est au Mali. Et il s'appelle Ken Durst, ce missionnaire. Et ce missionnaire-là expliquait comment, au Mali, on posait le toit au-dessus d'une case, au-dessus d'une maison. Et en fait, il explique que le toit était construit à même le sol. Et une fois terminé, on appelait tout le village. Tout le village. Tous les hommes se rassemblaient autour du toit. Et un signal, on soulève ensemble le toit. Mais au premier signal, le toit décolle de quelques centimètres. Parce que plusieurs se sentaient pas concernés. C'est pas grave, on recommence. Deuxième signal, il se lève un peu mieux, mais il retombe rapidement. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui se sentent encore concernés par mettre le toit en haut. Et c'est seulement au troisième ou quatrième essai que le toit monte assez haut pour être posé sur les murs. Et dans le livre que je lisais, qui est écrit par Daniel Liebrich, il conclut cette image en disant ceci. « S'il faut un village pour mettre le toit sur une case, il faut que tous les membres soient concernés pour ériger l'église. » On ne peut pas se passer de toi ce matin. On ne peut pas. Je vous invite à vous lever ce matin. On va prendre ensemble ce chant qui s'appelle « Consécration ». Et je vais vous inviter juste à réaliser chacune des paroles. Parfois, on chante des chants sans réaliser ce qu'on est en train de chanter, sans réaliser l'impact qu'on est en train de chanter. Et à un moment dans ce chant, il y a des paroles qui disent « Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Alors prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. » Et ces paroles sont tellement puissantes parce que Jésus a tout donné par amour pour nous. Jésus a tout donné pour nous servir. Et la Bible nous appelle à imiter Jésus, pas en allant se sacrifier à la croix, parce que ce qu'il a accompli sur la croix s'est fait une fois pour toutes. Tout a été accompli une fois pour toutes. Mais on est appelé à imiter son service sans compromis. Jésus a été sans compromis pour nous. Jésus n'a rien retenu pour nous. Jésus a donné son meilleur pour nous, pour toi, pour moi. Et parce que tu as été sauvé ce matin, tu es appelé à le suivre, mais à le servir. Tu n'es pas appelé à être un contributeur spirituel, un consommateur pardon, spirituel, mais tu es appelé à être un contributeur spirituel. Un contributeur actif dans le corps de Christ. On ne peut pas se passer de toi pour prendre soin de la meilleure façon de ce corps magnifique qu'est l'Église. Jésus t'a placé dans ce corps car il a une mission pour toi. Jésus t'a placé ici car il a une mission pour toi. Est-ce que tu veux continuer à être servi? Ou est-ce que tu veux rentrer pleinement dans son plan et servir? C'est ensemble. C'est ensemble. C'est ensemble qu'on pourra faire avancer le royaume de Dieu à Châteauguay. Ça prend toi, ça prend moi, ça prend nous. On ne peut pas se passer de toi car tu es un membre unique du corps. On ne peut pas se passer de toi pour grandir et vivre la croissance et la multiplication. On ne peut pas se passer de toi pour prendre soin les uns des autres. Et Seigneur, alors que ces moments sont en train de se conclure, on vient devant ta face, on vient devant ton trône, avec des cœurs reconnaissants parce que tu nous as sauvés. On reconnaît qu'on ne peut rien ajouter à ce que tu nous as offert à la croix. Ce n'est pas en te servant qu'on va gagner notre salut, mais c'est parce que tu as tout gagné qu'on veut te servir. C'est parce que tu as tout donné qu'on veut te servir. C'est parce qu'on est sauvé par grâce qu'on vient devant toi et qu'on veut te servir. Je te prie de nous aider à apprendre à servir les autres, à oser des choses, à oser entrer dans ce service-là auquel tu nous appelles, à servir le magnifique corps qu'est l'Église. Seigneur, alors qu'on va prendre ce chant, prends tout ce qui nous retient de t'obéir. prends tout ce qui peut nous retenir, toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les angoisses qui nous empêchent peut-être d'oser remplir un formulaire pour oser servir ton Église. Fais naître une soif en nous et un désir en nous de te voir, de te servir, d'être plus comme toi, Jésus. Je te prie pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont soif, je te prie pour ceux qui se sentent atrophiés spirituellement ce matin. Viens leur donner cette nourriture incroyable et parfaite que seul toi donne, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié, Père.